Et une des choses qui tourne autour de la situation actuelle, c'est en parallèle le système scolaire.
Exactement. Et un point qu'on aborde très peu depuis le début, on a insisté sur l'importance pour les jeunes de sortir de milieux défavorisés, de cercles familiales viciés à la limite pour permettre à ces jeunes-là d'aller à l'école. Ça va leur donner de l'oxygène un peu. Parfait. C'est important pour nos jeunes d'aller à l'école. On veut qu'ils aillent à l'école. Mais là, je veux dire, ils sont à l'école depuis le mois de septembre. Ça va-tu bien à l'école? Les évaluations, la réussite? On va parler à Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements scolaires. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien. Dites-moi, j'ai vu des résumés d'entrevues que vous avez accordés dans d'autres régions du Québec. Il y a des taux de réussite qui sont anémiques dans quelques régions du Québec. Est-ce que vous avez un portrait pour une région? Notre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la réussite scolaire, on nous dit souvent qu'ici, ben, pour la persévérance scolaire, on est bien bon, puis même pour la comment ça va ici?
Ben écoutez, autant pour la région du Saguenay que celle du Lac-Saint-Jean, les informations qu'on m'a données là, présentement, c'est quand même préoccupant aussi, comme plusieurs régions du Québec. Là. Donc, un taux là, qui avoisine les 30 % des élèves avec le portrait qu'on a actuellement. Il faut savoir que on devrait remettre le premier bulletin cette semaine, mais avec les changements au régime pédagogique, il y a seulement deux bulletins, donc le bulletin va au 22 janvier. Mais si on prend une photo à l'heure actuelle de nos élèves, ben, on parle de 30 % des élèves là, qui seraient en échec là, dans vos régions.
Quand même, si on compare avec des années plus régulières?
Ah, des années plus régulières, je vous dirais que ça tourne autour du 10 % environ d'élèves en échec là. On est dans trois fois plus là, présentement. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est dur à déterminer là, précisément. C'est sûr que la fermeture des écoles l'an dernier là, sur une bonne période a une incidence quand même importante. Et la fréquentation de nos élèves de 3e, 4e, 5e secondaire là, en alternance bon doit avoir aussi un petit impact parce qu'on remarque que c'est surtout chez les élèves de le troisième secondaire, là, que c'est plus difficile.
Ah oui? OK. Fait que vous voyez réellement une différence au sein même des différents niveaux du secondaire. Donc, j'imagine que quand on fait la comparaison à primaire-secondaire, il doit avoir une marge aussi. Là.
Oui, parce qu'on a... Écoutez, nous, le coup de sonde qu'on a fait, c'est vraiment de communiquer là, avec nos présidents de différentes régions qui, eux, ont appelé des collègues là, des écoles, surtout au secondaire, là, qu'on a fait notre démarche, là. Parce que on avait eu beaucoup de questionnements, là, beaucoup de courriels qu'on recevait de directions qui étaient inquiètes là, du nombre d'échecs. Puis ça venait surtout là, du secteur du secondaire, donc on en recevait moins du secteur primaire. Donc on a fouillé un petit peu plus là, pour le secondaire.
Donc on peut dire que les histoires d'école à distance, c'est un échec.
Mais écoutez, c'est on se cachera pas quand on parle avec nos étudiants, c'est mieux. Écoutez, c'est mieux que
entre
non présence à l'école et l'enseignement à distance. C'est sûr qu'on va toujours prioriser l'enseignement à distance, qui maintient quand même une relation entre l'enseignante et les élèves. Mais bon, on écoute aussi les jeunes qui dans le temps sur cette formule-là, bon, plus ça avance dans le temps, plus ils se disent moins persévérants. Moins à leur affaire. Vous savez, vous êtes dans votre maison comme jeune ado à suivre des cours en ligne où l'interaction avec vos amis n'est pas présente. L'interaction directe avec l'enseignante n'est pas là. Ça ne remplacera jamais l'enseignement régulier. Donc oui, ça a un effet, là, c'est clair, net et précis.
Maintenant, ultimement, bon, il y a la manière dont on compile les notes, la manière dont on passe les examens et à quel moment on les passe, évidemment. Est-ce qu'à la fin juin, quand l'année scolaire sera terminée, on va être obligé de mettre un astérix sur la note des bulletins des gens de cette année? C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir peut-être monter les notes de tout le monde pour en faire passer une bonne cohorte ou sinon on va accepter l'échec collectif qui s'en vient?
Ben, nous, on ne souhaite vraiment pas aller dans cette avenue-là. Il est encore tôt dans l'année scolaire. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements, de modifications qu'on peut mettre en place. Et je peux vous en donner quand même deux précis là, sur lesquels on travaille présentement avec le ministère. On sait que les deux bulletins valent, les deux étapes valent 50 % chacune. Donc, après le premier bulletin du 22 janvier, on a déjà 50 % de l'année qui va compter au niveau mathématique. Nous, on dit, est-ce que la première partie de l'année, comme il y a beaucoup de mises à niveau, cette première partie-là ne pourrait compter que pour 30 %, 40 % de l'année et que la deuxième bulletin mais lui est une meilleure prévalence là, au niveau du pourcentage de 60-70%.
Ça c'est dans une optique. Dans... Si les choses s'améliorent, vous allez gagner votre pari, mais si les choses se détériorent, vous ne serez pas plus avancé.
Oui, mais on prend quand même le pari de que les choses vont s'améliorer, et surtout au niveau de la motivation de nos élèves. Si vous êtes en échec après une étape qui vaut 50%, exemple, j'ai eu 50%, il me reste donc, je dois avoir 70% et plus dans ma deuxième étape pour m'assurer d'une réussite. Pour nos élèves, on pense toujours, bon, pour certains élèves, ça peut paraître peut-être plus facile, mais pour nos élèves vulnérables, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne source de motivation.
Et si, on le souhaite pas, mais si ça s'améliore pas, puis que avec les chiffres que vous nous avez donnés, il y a 30% des étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passent pas, est-ce que votre réseau est en mesure d'être capable de passer à l'an prochain puis de disperser ces gens-là dans les bonnes classes? Ça va être tout qu'un casse-tête?
Le réseau sera en mesure de le faire, je voudrais, dans un contexte plus régulier, dans le sens que si on doit encore vivre avec des contraintes de bulles, de nombre de bulles fixes ou de nombre de groupes fixes, c'est beaucoup plus difficile au niveau de l'organisation là, d'un établissement pour aller dans cette optique-là. Tandis que si on revient dans une année plus régulière, de créer des groupes de transition ou des groupes qui sont en soutien dans certaines matières, ça se faisait déjà avant. Là, c'est plus difficile de le faire compte tenu du contexte là, des restrictions des bulles. Mais si on revient dans un contexte plus régulier, oui, ça peut se faire et oui, on serait capable de créer des groupes là, avec des particularités pour des remises à niveau.
J'ai hâte de vous entendre parce qu'on a beaucoup questionné les syndicats qui ont une vision de leur côté. Mais quand on entend François Legault depuis le printemps, quand il parle de la rentrée scolaire, il dit qu'il veut sortir les enfants de milieux toxiques, défavorisés, les ramener à l'école, que c'est bon pour eux autres. On a aussi dit, inévitablement, si les parents retournent travailler, il faut bien caser, entre guillemets, les enfants. Mais on parle rarement de la réussite. Est-ce que vous avez l'impression, justement, d'être une espèce de filet social ou d'une garderie, dans un certain sens, plus qu'un endroit pour favoriser cette année la réussite scolaire?
Bien, écoutez, on a toujours un rôle, l'école, hein, vous savez, il y a trois rôles importants, socialiser, instruire puis qualifier. Puis on vit aussi avec des élèves qui ont des milieux familiaux qui ne sont pas nécessairement sains et sécuritaires. Et que oui, l'école joue un rôle de protection sociale, un rôle de pour rassurer ces élèves-là. C'était là avant la pandémie, ça l'est encore présentement, et l'école va toujours jouer ce rôle-là. Mais la mission première de l'école reste de transférer des apprentissages, de faire des apprentissages au niveau académique. Et c'est pour ça qu'on est là, puis on va continuer à le faire. Mais est-ce qu'il y a des ajustements à faire aussi? Parce qu'il y en a des familles qui, présentement, dans le contexte aussi de pandémie, vivent des choses qui sont pas faciles. Donc, on travaille très fort aussi avec ces élèves-là.
Dites-moi, aujourd'hui, 17h, le premier ministre devrait annoncer davantage ses intentions pour la période des fêtes. On voyait un sondage qui a été commandé par la Fédération des comités de parents qui est quand même divisé. Il y a 44% des gens qui sont favorables au congé scolaire allongé, 38% qui sont opposés, mais la majorité, 60% des parents veulent que l'enseignement à distance soit fait durant ces journées-là au lieu de les perdre. À quel endroit vous vous situez sur ce qui pourrait être annoncé ce soir?
Nous, on a pris le temps aussi de sonder l'ensemble de nos membres là, sur ce côté-là. Là. Je vous dirais qu'il y a quand même un bon pourcentage, là, près de 70%, qui sont pour une des deux options suivantes, le maintien du statu quo. Donc, on continue comme c'est là présentement. Et si on devait, à cause du nombre d'évolutions des cas, là, aller vers une deuxième option, on irait vers de l'enseignement à distance. Là. Même si on le sait, c'est pas toutes les régions du Québec qui sont prêtes à basculer là, pour l'ensemble de leurs élèves, donc d'offrir ce service-là à 100% de nos élèves, mais il y a quand même une forte proportion là, qui maintiendrait le statu quo ou de l'enseignement à distance, et un très faible pourcentage qui serait pour la fermeture là, des écoles, donc de la perte là, de journées scolaires peu réduites. Okay.
Quand on dit de continuer un petit peu comme ce qui est le cas actuellement, il y a beaucoup de parents depuis le début de l'émission qui nous disent, dans des cas précis d'école, sont en train de fermer une classe, deux classes, trois classes par école. Qu'est-ce qu'ils attendent pour fermer l'école? Est-ce que ça, c'est une décision qui vous revient ou c'est vraiment la santé publique qui vous donne l'indication à ce niveau-là? Parce que visiblement, il y a des parents qui sont inquiets. Puis si on maintient la formule actuelle après les fêtes, on doit s'attendre à ce qu'il y ait quand même des impacts importants dans vos établissements?
Oui, c'est la santé publique qui prend cette décision-là. L'enquête est fait conjointement avec la direction d'école. Donc, à partir du moment où il y a des cas là, qui sont signalés à la santé publique se joint à la direction d'école pour faire une enquête, là, à savoir, l'enfant a été fréquenté qui au niveau de la classe, au niveau du transport scolaire, au niveau d'activités parascolaires, s'il y en a, des clubs sportifs ou autres. Donc, il y a cette étude-là qui est faite, mais la décision finale d'isoler un ou deux élèves ou d'une classe ou d'une école appartient à la santé publique.
M. Prévost, merci beaucoup.
Bonjour.
C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.
À la prochaine. Au revoir. Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements scolaires. Beaucoup de choses quand même là-dedans qui sont particulièrement intéressantes.
Je suis le seul vieux con qui pensait que les écoles fonctionnaient encore en étapes de 4 étapes pour les résultats.
J'ai appris ça, moi.
Je l'ai appris, moi, récemment.
J'ai pas d'enfant d'âge scolaire, mais...
Je l'ai appris, genre, cette semaine. Moi, j'étais sûr encore qu'on fonctionnait à 4 étapes. Sais-tu quoi? Je peux comprendre que les choses évoluent puis que finalement, on fonctionne avec 2 tranches de notes. Là,
ben, moi, c'est un auditeur qui me l'a appris tantôt en me disant que son enfant est un enfant en difficulté, qu'il doit prendre des cours privés cette année pour essayer de se monter parce que eux autres, comme parents... consciencieux, sachant que leur enfant a des difficultés. Ils disaient le premier bulletin à 50%, la partie de même, ça ne marchera pas. Là.
Est-ce qu'on va être obligé de remodeler un peu les choses puis de peut-être revenir à 4 tranches dans l'année au niveau des notes, quitte à ce qu'elles ne soient pas exactement...
Mais c'est particulier pour l'année. Là.
Ouais.
Je pense pas que c'est le type d'affaires qui va rester. C'est vraiment particulier pour cette année. Tu sais, quand on nous dit qu'il y a un taux d'échec potentiel de 30% dans la région, c'est énorme.
C'est ça. Écoutez, ça, là...
On m'a dit, moi, dans les dernières années, que c'était la tolérance qui primait. Mais c'est pour ça qu'on a un 10% d'échec. Ça pourrait être plus élevé que ça, mais on avait beaucoup de tolérance. Quand c'était proche, ah ouais, go, passe en haut, on ne doublait pas pour doubler. Simon, mais là, quand t'es rendu à 30%, malgré que t'es tolérant...
Je sais même pas, puis là, je lance ça dans l'univers, peut-être que les gens concernés pourront m'aider, je sais même pas si le système scolaire actuel est fait pour absorber 30 % d'échecs.
Pour ralentir. Ben, si tout le monde ralentit de niveau égal, c'est pas pire, mais il nous dit qu'en secondaire 3,
tu comprends,
il y a plus de problématiques. Fait que là, t'as un problème.
Il y a des paliers qui sont plus durs à sauter. Là,
c'est, c'est au 3, il y en a trop qui restent. Puis au 2, ça n'a pas pire été, puis ça monte. Là.
Puis la solution est parfaite. Puis j'ai bien peur qu'au Québec, on est bon pour faire ça, c'est-à-dire niveler par le bas. À la fin de l'année, on va monter les notes.
Puis d'un autre côté, si tu prends la décision, bon, cette année, c'était de la boîte, on recommence le même niveau pour tout le monde, ce qui pourrait être une solution.
Ben, c'est possible, extrême, mais c'est possible.
Sauf que tu ralentis la graduation de plusieurs, les cégeps vont dire, ouais, mais écoute, moi, j'ai pas de nouveaux étudiants qui s'en viennent.
C'est une carrière.
Ceux-là qui allaient bien,
qui payent pour ça. Pogné
pour recommencer l'année en se disant, ben là, voyons, moi, j'ai tout fait mes affaires à distance au complet, j'ai été by the book. Ça, c'est de la démotivation majeure pour les personnes qui sont plus performante. Mais tu sais, on parle de 30% ici. Peut-être que le printemps où ça a recommencé à aller à l'école ici, contrairement à ailleurs, nous aura aidé. Il y a des régions au Québec actuellement, là, 50% de taux d'échec.
Non, non, il y a une catastrophe qui s'en vient. Le train, on le voit au bout de la traque, là, puis il va nous péter d'en face. Je comprends que c'est peut-être pas la priorité number one, c'est vrai, c'est-à-dire le taux de diplomation, là. Mais dans les priorités qui vont nous péter d'en face au mois de mai ou au mois de juin, je vous le dis, notez-le sur un papier, là. Le taux d'échec en milieu scolaire, si les notes ne sont pas artificiellement revisées pour sauver la face, on va t'avoir un méchant tsunami qui s'en vient.
Par texto, on me dit, ici, j'ai un enfant de secondaire 5, bulletin à 50%, ça ne marche pas en tout. Là. C'est plate, il avait réussi ses 4 premières années avec effort, mais là, ouf, cette année.
Ah ouais, c'est tough.
Ouais, par texto également, on me dit, d'habitude, c'est 3 bulletins, 20%, 20% et 60%. Est-ce que c'est différent en secondaire, primaire? J'en ai aucune espèce d'idée, mais voilà la situation actuelle qui, pour la réussite scolaire, là, si c'était ça l'objectif, ça ne marche pas. Les deux autres volets, peut-être un petit peu plus, mais pour le volet réussite scolaire, catastrophe.
On revient tout de suite après la pause. Kick 95.7 Saguenay. Midi pile.
Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, et que la grippe vous agrippe, dites-vous qu'elle ne vous lâchera pas et qu'elle pourrait avoir pour vous de graves conséquences.